Radio Cité Genève.
Cité Culture. Epiphana Monfo.
Bienvenue à toutes et à tous dans ce nouveau numéro de ce magazine Cité Culture. Dans un instant, nous serons au Château de Prangin, musée national suisse qui accueille deux expositions majeures de photojournalisme, le Swiss Press Photo 24 et le World Press Photo 2024. Cette exposition, la deuxième nommée, est jusqu'au 5 janvier prochain et offre un parcours visuel saisissant à travers les événements de 2023 au plan international. World Press Photo 2024 réunit environ 140 clichés venant du monde entier, sélectionnés pour leur force documentaire et artistique. Nous n'allons pas toutes les faire, nous avons recensé en compagnie de Marie-Hélène Pellet, conservatrice au Château de Prangin, musée national suisse, quelques-unes de ses photos, notamment celles primées pour cette année 2024. Reportage.
Cité Culture.
Marie-Hélène Pellet, bonjour.
Bonjour.
Qu'est-ce que le World Press Photo ? Rappelez-nous un peu ce prix, qu'est-ce que c'est ?
Oui, alors ce prix, en fait, a été créé, cette fondation World Press Photo a été créée en 1955 déjà, par des photographes indépendants aux Pays-Bas, des photographes de presse qui trouvaient qu'ils n'avaient pas assez de soutien. Et ils se sont dit, un bon moyen, c'est d'organiser un concours. Il y avait le fameux Pulitzer qui avait déjà été créé en 1904, mais c'est vieux. Et comme ça, on fera connaître cette photographie de presse et puis ce sera un organe qui pourra nous soutenir. Et depuis lors, donc, ça existe donc annuellement, ce concours de photographie de presse. Donc c'est une organisation absolument immense. C'est à peu près 60 000 photos qui sont reçues par un jury. Et puis voilà, par à peu près, je ne sais pas combien de photographes dans le monde entier, mais c'est énorme, 4 000 photographes. Mais ça donne l'occasion justement de connaître, de soutenir cette photographie de presse. Et depuis quelques années, 2-3 ans, il y a eu un remaniement où on essaie de donner plus de place aux photographes locaux. Parce que si vous voulez, avant, un photographe danois couvrait une crise en Éthiopie, mais finalement, alors c'était un bon photographe, mais il connaissait peut-être pas, il n'était pas local. Maintenant, on essaie de faire connaître aussi les photographes locaux, donc on a des jurys par continent et des prix par continent, et puis après il y a 4 gagnants au niveau mondial, mais c'est, je pense, une très bonne idée que de faire travailler aussi les locaux, ça les fait connaître, et puis c'est leur terre.
Alors l'année dernière, on avait pour photographie gagnante une photo venue d'Ukraine, puisqu'on était l'année d'après le début de l'offensive russe en Ukraine, avec cette photo de la dame enceinte qui sort de son bâtiment bombardé.
Qui va mourir, une femme enceinte sur le point d'accoucher, qui avait vite été à l'hôpital la nuit, conduite par son mari, et en fait l'hôpital a été bombardé et elle va décéder peu après. La photo, évidemment, avec son enfant, et le mari voilà, mettra beaucoup de temps à apprendre même que sa femme est décédée. Donc c'était une photo dramatique, ça l'est toujours. Et cette année, la photo gagnante, je vous la montrerai, c'est aussi lié à un conflit, malheureusement c'est le nouveau conflit, je dirais le plus récent, dans la bande de Gaza, Israël. Et là, vous verrez, c'est aussi une photo forcément dramatique. Malheureusement, ça a toujours souvent un lien avec un conflit.
On va entrer tout de go dans cette exposition.
Oui, alors là, j'aime beaucoup ce reportage, en fait, d'une photographe, en fait, sud-africaine, qui avait déjà travaillé sur la problématique de la démence chez les personnes âgées, qui est finalement, je me disais, une problématique qu'on se pose aussi dans les pays occidentaux plus riches, mais qui est évidemment traitée très différemment suivant le lieu du monde où, dans lequel on se trouve. Alors là, c'est un reportage qu'elle a fait pour attirer l'attention des gens à Madagascar, où il n'y a en fait aucune structure. Alors, on voit, on le surnomme Dada Paul, un monsieur qui était chauffeur de taxi de 91 ans, qui a encore une fille, et une petite fille qu'il adore, mais qui petit à petit a sombré dans la démence. Et souvent, parmi ces populations, c'est considéré, enfin, on a de la peine à comprendre ce qui se passe, on ne sait pas vraiment le diagnostiquer. Et surtout, pour sa fille qui a 40 et quelques, il n'y a pas de structure d'aide. Donc, elle travaille, mais c'est elle qui entretient la famille financièrement et aussi moralement. Et elle se fait beaucoup de soucis. On voit une photo, sa mère et l'épouse de monsieur est décédée. On voit, elle regarde son père, elle l'examine du coin de l'œil pour voir s'il est encore capable de préparer un poisson, parce qu'elle se dit, comment est-ce que je vais pouvoir gérer cette problématique, la population vieillissant quand même. Et à Madagascar, on compte sur la famille est très importante, la religion aussi, mais c'est en même temps un reportage, je trouve, très affectueux, très, très touchant, avec des très belles couleurs, ocre, on voit cet enveloppement affectif. En même temps, c'est vraiment un gros problème de société, cette démence, et cette photographe, elle a eu beaucoup de gens dans sa famille qui en ont souffert. Elle avait fait un reportage au Ghana, si je me trompe pas, où aussi des femmes étaient, en fait, comment dire, marginalisées parce qu'elles commençaient à tomber un petit peu dans la démence. Et que, je pense qu'on n'a pas les moyens, ça fait peur. Et qu'est-ce qu'on peut faire pour cette... Et ça, c'est un reportage un peu sociétal, mais c'est une question un peu globale de notre monde actuel. Donc, je trouve un beau reportage. Et puis, une photo très touchante aussi, alors de nouveau aussi très affectée, je dirais entre guillemets, c'est un fils qui, après avoir combattu dans les forces éthiopiennes, mais pas gouvernementales, en fait, celles qui se sont insurgées contre le gouvernement parce qu'il était de la minorité de Tigré, il retourne à la maison, il n'avait pas vu sa mère depuis 2 ans, et un mois avant le cessez-le-feu, il a en fait perdu une jambe, on le voit pas, mais parce qu'il a reçu une bombe, et bon, alors il retrouve...
En tout cas, il tient une béquille.
Voilà, ouais. Alors en fait, on apprend qu'il a perdu une jambe, mais je crois que le plus important pour sa mère et lui, c'est de se retrouver, de s'embrasser, de pouvoir se serrer dans les bras. Donc c'est quand même un message d'espoir, de se dire oui, à un moment donné, les guerres peuvent se terminer, et les familles peuvent se retrouver, se recomposer. Donc je trouve qu'elle est, ouais, je trouve que c'est très belle au niveau de la lumière, au niveau de, et puis cette pudeur qu'a cette mère qui a pas vu son fils pendant 2 ans. Moi, je pense que je l'aurais serré très fort, mais là, elle est très délicate. En fait, c'est un moment de retrouvailles aussi. Où on a un peu d'espoir par rapport à voilà, ces conflits qui, des fois, s'arrêtent, heureusement, d'ailleurs, je dirais.
Cité Culture, Epiphane Amonfo.
Là, je trouve que c'est une photographie absolument splendide qui montre, en fait, l'assèchement dans un bras de l'Amazonie. Vous savez, ce grand fleuve qui est très essentiel pour la forêt tropicale. Et là, on voit un petit personnage avec une hotte sur le dos. C'est en fait un pêcheur qui, d'habitude, ne pouvait atteindre son lieu de vie que par le bras de cette Amazonie. Donc, par voie d'eau, il n'y a pas d'autre accès. Et là, elle s'est tellement asséchée qu'il doit faire des kilomètres à pied dans le lit de la rivière pour rentrer chez lui. C'est à la fois une photo avec un magnifique esthétisme, mais c'est coup de poing pour nous de se dire que c'est quand même un bras de l'Amazonie, c'est pas une toute petite rivière qui est complètement asséchée. Donc ça dit le degré d'avancement des problèmes climatiques et du réchauffement climatique. Donc je trouve que c'est très percutant, une photo comme ça, parce qu'elle est très belle, on peut imaginer toutes sortes de choses, puis en fait quand on lit la légende, la réalité est quand même, on se dit oui, là il faut vraiment faire quelque chose, on n'a plus de temps à réfléchir.
Elle est saisissante, cette photo.
Exactement, saisissante. Puis je trouve qu'elle est d'une beauté entre le côté ocre. Alors c'est ça qui est terrible, ce lit asséché, mais en même temps c'est d'une beauté avec cette ligne d'horizon.
Et on voit comme des dunes, ouais. Le sable.
Ouais. C'est. Et là, de nouveau, alors c'est la preuve qu'une légende, enfin sans légende, cette photo est pas compréhensible. On ne peut que l'interpréter peut-être à tort. Et puis aussi un beau reportage, mais dramatique, je dirais, sur la situation du Venezuela. Le Venezuela, c'est vraiment un des pays d'Amérique du Sud dans une situation la plus précaire, qui était il y a des années un pays riche à cause du pétrole et qui a perdu toute cette richesse parce qu'il y a eu, je pense, une surexploitation. Et puis les installations pour ce pétrole, le prix du pétrole a aussi beaucoup chuté, bien sûr. Les installations sont devenues vétustes à tel point qu'il y a des espèces de feux dans l'air en continu. Et on voit ces jeunes générations, ces joueurs de loto animaliers, c'est très touchant cette scène avec 3 petits-enfants, 3 mères ou 3 dames, voilà, dames qui jouent avec ces petits-enfants. Mais on se dit, mais quel avenir ils vont avoir, ces enfants? Non seulement il y a à peu près 98% de la population du Venezuela qui ne sait pas comment vivre, simplement vivre, mais je veux dire manger et dormir sous un toit. Et puis en plus, il y a une pollution pour leur santé. Qu'est-ce qu'ils vont devenir, ces enfants, leurs poumons et leur... Alors si c'est ça le pays qu'on leur a transmis, je trouve ça dramatique. Et puis on voit dans d'autres photos, ben, des gens qui trient les poubelles pour voilà, trouver quelque chose à manger. Un homme qui, bon, prend le plaisir de se baigner, mais depuis des anciennes plateformes pétrolières. Donc ça dit quand même là ce que l'industrie a pu détruire au niveau de la nature. On le voit aussi avec des pêcheurs qui se retrouvent, enfin voilà, dans dans une petite embarcation face à ces puits de pétrole. Et puis alors là, il y a une photo assez saisissante d'une jeune femme qui est en fait institutrice, enfin qui est éducatrice de la petite enfance. Et ils disent qu'elle ne tourne pas, elle le touche. Alors ça, j'arrive pas à concevoir, $7 par mois. Donc avec $7, ben on voit son intérieur, on voit comment vivre. Donc c'est dramatique cette situation du Venezuela. En même temps, les couleurs sont très chaudes, ça manque pas de lumière, d'effets, de reflets, assez chatoyant finalement. Et en même temps, c'est très fort parce que c'est pour vraiment nous rendre compte de cette situation de précarité excessive du Venezuela. Donc ça, ouais. Et sans compter, je pense que c'est un pays devenu forcément très violent, très dangereux. Ça dit beaucoup de choses avec des images qui paraissent comme ça, finalement assez chaleureuses au départ, mais quand on comprend la thématique, on est assez effrayé. Comme je vous disais, la question du climat, là, je vais peut-être pas m'étendre, mais c'est des manifestants, des activistes du climat dans des zones en Allemagne, la Rhénanie, où il y a encore des exploitations de charbon à ciel ouvert pour faire tourner des centrales électriques. Et là, il y a vraiment des résistances, et tant mieux, ils ont réussi à sauver des villages. Là, on voit quand même une église détruite. Là, c'est bon, les tripes sont quand même secouées. Je trouve que c'est terrible de voir un édifice d'une église qui raconte beaucoup de choses de ce lieu de vie, de ce village, qui est détruit pour que la société d'énergie puisse construire encore plus de centrales. Donc ça, on dit quand même long. Alors les activistes se sont beaucoup mobilisés, ils ont réussi quand même à obtenir le sauvetage de 5 des 6 villages, à part celui-là, des conditions de préservation un peu de la nature, qu'ils arrêtent l'exploitation d'ici à, je ne sais plus les dates, 2030. Donc ils ont obtenu, mais c'est avec beaucoup d'implications et beaucoup de gens qui font du sitting et qui s'impliquent. Et puis un sujet très grave aussi, mais dans les conflits, je trouve que cette photo est très énigmatique, mais très belle dans les teintes. C'est une jeune femme, mère de 3 enfants, qui vit en Éthiopie, qui avait un salon de coiffure et qui s'est retrouvée par les soldats de ces forces de Tigré, de libération. Elle s'est retrouvée violée pendant au moins 3 mois, et le pire, c'est qu'elle est tombée enceinte. Et qu'elle, dans cette société, évidemment, elle n'ose pas l'avouer. Elle ne sait pas comment dire à ses 3 enfants qu'elle est dans cette situation. On parle pas de l'enfant, on sait que c'est un garçon. Mais pour elle, elle se sent honteuse. D'ailleurs, ce bouquet rouge de honte, je me disais, c'est tout en pudeur, parce que cette femme a voulu garder, ce que je comprends tout à fait, l'anonymat. Et puis, ça doit être très psychologiquement terriblement dur, et elle a pas d'aide, elle est seule face à cette terrible réalité qu'elle doit porter en elle.
Donc, elle est âgée de 32 ans.
Ouais. Vous voyez, 32 ans, elle a toute une vie devant elle. Et ça, c'est justement, je pense aussi, ça permet la photographie de presse de témoigner aussi des effets collatéraux, je dirais, des conflits, parce qu'on parle les maisons détruites, les gens, bien sûr, mais voilà, c'est souvent.
On parle du viol utilisé comme arme de guerre et qui détruit entièrement les victimes.
Ouais, complètement, ouais. Et puis, cette problématique terrible des réfugiés qui continue à être le cas. Là, c'était des gens qui ont voulu fuir la Mauritanie sur une petite embarcation de pêcheurs, et puis qui voulaient atteindre l'Espagne, les îles Canaries, leur bateau s'est perdu, et on a retrouvé le bateau avec 14 cadavres d'hommes morts près des îles Tobago, puis c'était dans les Caraïbes. Et donc là, le travail des photojournalistes et journalistes est remarquable, parce qu'ils ont activé leurs contacts un peu partout sur les différents continents pour essayer d'enquêter, de savoir qui étaient ces hommes, comment ça s'était passé. Et là, ils ont réussi, malheureusement, mais enfin pour la famille, c'était quand même peut-être une manière de pouvoir un peu avancer dans le deuil, d'identifier un des cadavres et de retrouver qu'il était parti du Mali. Et là, c'est une photo très dure. On voit les chambres froides, enfin la morgue, les numéros des gens avec des étiquettes, des 14 personnes qu'on a retrouvées. Et ce qui est terrible, c'est que je pense qu'on ne pourra pas faire l'histoire de chacun. Et donc, ils appellent ça, parce qu'ils retrouvent souvent des bateaux, ces bateaux fantômes sur ces côtes.
Cité Culture, Epiphane Amonfo.
Alors, il y a une photo qui me touche particulièrement, parce que je suis parent, je suis mère, mais d'un père au milieu de... il y a eu beaucoup de tremblements de terre, donc il y a eu le Maroc, mais il y a eu la Tunisie, ça a fait défrayer la chronique, parce qu'en fait, on s'est rendu compte que c'est à la fois des problèmes, oui, de zones qui sont à risque, mais il y avait de la corruption là derrière, parce que dans cette région, je ne sais plus exactement le nom de la ville, je crois que c'est dans le sud de la Turquie, ils savaient pertinemment qu'il ne fallait pas construire des bâtiments très hauts, avec beaucoup d'étages, mais comme il y avait des contrats qui ont été alloués, je pense avec des pots de vin, ils ont quand même construit ces immeubles. Et forcément, c'était des cartons-pâtes. Et quand il y a eu ces tremblements, Et là, c'est un père qui a perdu sa fille qui avait été dormir chez sa mère à lui. Donc ce monsieur dit il a perdu sa mère, son frère, sa belle-sœur, ses nièces et sa fille. Forcément, mais le dramatique pour lui, c'était sa fille, c'était son quatrième enfant. Et il continue à tenir la main de sa fille, qui est ensevelie, bien sûr, morte. Mais moi, cette photo, j'ai vraiment de la peine à la... Enfin, je trouve ça terrible parce qu'il a l'air complètement en état de choc, hagard. Je comprends, il veut pas la quitter. Mais en fait, il y a plus aucun espoir, bien sûr. Donc, c'est à la fois un peu une photo, non seulement sur les problèmes, oui, climatiques, mais aussi de corruption, comme une conjonction d'éléments.
On parle même de plus de 55 000 morts.
Et puis là, je vous parlais aussi de reportages un peu différents. Là aussi, c'est un reportage d'une journaliste ukrainienne, hein, photojournaliste qui a fait un selfie, si vous voulez, mais qui est entre le texte, il y a aussi il y a des collages, il y a des dessins faits à la main, et il y a de l'audio. Si vous allez sur son site, on peut écouter des histoires qu'elle raconte. Il y a des photos, par exemple, de petites filles qu'on voyait pas, là. Et en fait, son credo, c'est de dire, si on parle de la guerre anonymement, comme on montre ces images de guerre, ça touche plus les gens. Si je dis que c'est un reportage de la guerre est personnel, c'est mon point de vue sur la guerre, ce que je ressens, ce que j'ai vu, là, les gens vont de nouveau être beaucoup plus attentifs et conscients que, y a un drame qui se passe tout près de chez eux, en Europe, en tout cas. Elle est toute jeune. Elle a d'ailleurs un prix. Elle a fait des photos assez risquées. Là, on voit des cadavres de soldats russes qui ont été surpris par des Ukrainiens qui avaient repris la région. Là, un soldat ukrainien qui a besoin d'aide respiratoire dans un centre de fortune avec une femme là qui est une aide-soignante, mais qui s'est improvisée aide-soignante pour aider les blessés de guerre. Et puis, des missiles qui tombent encore sur les maisons. Donc, elle prend beaucoup de risques. C'est aussi quand même un reportage de photos de presse, mais en même temps, elle mixe ça avec d'autres supports. Et je trouve que c'est intéressant pour peut-être un autre développement de la photo de presse. Et voilà, je pense que la jeune génération a envie de un peu plus s'exprimer à travers ces photos de presse. Là, c'est deux panneaux qui racontent l'histoire de World Press Photo. C'est des nouveautés que la Fondation propose et je pense que c'est bien de remettre ça. Vous disiez, ça a été créé en 55, avec des images aussi iconiques primées. Là, c'était une jeune femme noire ou métisse qui allait à l'université puis qui était huée par ses camarades ou à l'école parce qu'à l'époque, il y avait la ségrégation et c'était quand même dans les années 57. Hein. Donc, ça nous rappelle tout le chemin parcouru aussi par ce concours. Donc, je pense que c'est bien d'en faire l'histoire. Et puis, là, je trouve une très, très belle série. Alors, l'avantage aussi de World Press Photo, ce qui n'est pas le cas dans Swiss Press, c'est des reportages sur le long terme. Enfin, je dis ça, c'est pas vrai, parce que Mathieu Selweger, qui a fait les assistants sexuels, il les a suivis pendant pas mal de temps, mais là, c'est sur un projet vraiment long terme, d'un photographe qui, je crois, oui, vénézuélien, mais qui a lui-même été un migrant, qui connaît bien et qui l'a vécu de l'intérieur, si je puis dire. Et là, il suit des migrants qui maintenant essayent de passer du Mexique aux États-Unis, et le Mexique, ou au Mexique, même au Mexique. Et le Mexique a rigidifié sa politique, un peu selon la politique américaine. Et donc, une façon de faire, c'est de se monter sur des trains de marchandises, ce qu'on appelle la bête, parce que c'est des énormes trains. Cette photo est juste splendide au niveau du cadrage, je trouve, de la composition. Il y a un équilibre, deux arbustes, deux wagons de marchandises, et cet homme qui est entre deux, au milieu entre deux, qui va passer d'une rive à l'autre. Est-ce qu'il va y arriver? Ça, évidemment, ça symbolise le passage d'un migrant qui essaye absolument d'aller dans un pays qui croit meilleur pour lui. Et puis le ciel qui est quand même avec ses nuages assez bas, elle est vraiment belle, et ce noir blanc pour montrer la situation de ces migrants qui sont prêts à tout mais qui sont aussi terrorisés. Là on voit une famille très touchante avec une petite fille qui essaie d'avancer dans leur approche de la frontière, mais la peur au ventre en fait, parce que s'ils sont attrapés c'est fini pour eux. Donc c'est vraiment la condition d'être humain qui est, je trouve, pas digne d'un être humain finalement. C'est un beau reportage qui vaut la peine de montrer les différentes situations dans lesquelles ces migrants se retrouvent. Et puis là, il y a deux migrants qui sont tombés amoureux. Alors, il y a quand même toujours une note d'espoir sur l'être humain. Sur un train qu'ils avaient pris une marchandise, l'un et l'autre voulaient fuir leur pays. Et ils se rencontrent. Et voilà, on voit que l'amour est au-dessus de tout parce que finalement, ils ont plus peur. C'est des histoires de vie. Et je pense que c'est important de rendre hommage à tous ces gens de l'ombre, en fait, aussi. Là, c'est quelque chose de très emblématique et d'une première, je pense, parce que c'est les premiers réfugiés climatiques aux États-Unis. Mais je pense que ça va être en Europe et tout, on va avoir de plus en plus de reportages. C'est des gens, donc des Américains qui vivaient sur l'île de Jean-Charles, qui est à peu près à 130 km au sud de la Louisiane, enfin de la Nouvelle-Orléans, pardon. C'était une communauté amérindienne, alors évidemment des natifs qui, évidemment, sont plus précaires.
Des autochtones.
Des autochtones, qui avaient été mis là par les Français qui occupaient la Louisiane. Et on se rend compte que les bayous, nous, enfin leur terre, cette île, elle est recouverte de plus en plus d'eau. Et là, maintenant, elle a diminué, elle est plus que de 300 mètres de large et de 3 km de long. Donc en fait, eux, leur technique, ça a été de surélever leur bâtiment, leur villa. On ne le voit pas là, mais il y a d'autres photos, mais c'est plus jouable. Alors le gouvernement américain a débloqué des fonds pour déplacer 30 familles sur le continent. Mais les personnes âgées, ou comme cette personne-là en bas à droite, font de la résistance. Il y a une dame qui a ses deux fils qui ont peut-être 50-60 ans, donc elle est très âgée. Elle dit non, moi je mourrai là, je suis de là, c'est mon lieu de vie, c'est mes racines. Donc ça pose vraiment un problème. Et en même temps, là on y est, on doit les déplacer ces gens, sinon ils vont mourir. Et c'est pas le seul reportage où il y a une érosion. Il y a aussi, on verra une photo très belle des îles Fidji, où le niveau d'eau monte. Et les anciens disent, on n'a jamais connu un tel niveau. Et petit à petit, nos terres, on le savait, mais là ça arrive. Donc ça, c'est une photographe qui est aussi sociologue française, Sandra Mel, qui a été au moins 7 fois faire différentes photos pour montrer l'évolution et le drame, en fait, vraiment écologique.
Ça pourra faire peut-être réfléchir les climato-sceptiques.
Alors, tout à fait, oui, je le souhaite. Bah, comme cette photo qui est magnifique, aussi assez iconique, d'une forêt qui a brûlé au Canada en été 2023, il y a énormément eu de sécheresse. Et là, c'est un volontaire, enfin pompier, qui observe, il s'est mis sur un rocher, il observe que il y a bien la fin des travaux d'éteindre les feux de forêt par ses camarades pour être sûr qu'il peut maintenant dire cette zone est balisée, c'est bon, le feu va pas repartir. Ici, il y a aussi le problème des papillons monarques, des très belles photos aussi, qui sont menacés par un changement de fleurs, en fait. Ils se nourrissent beaucoup d'asclépiades, et puis l'asclépiade est une plante qui, petit à petit, à cause des changements climatiques, se trouve à disparaître. Donc, il y a tout un écosystème qui est perturbé. Donc, les problèmes de climat sont vraiment quand même très important dans cette édition.
Cité Culture, Epiphana Monfo.
C'est important dans cette exposition d'agrandir les formats, ce qui contraste aussi avec ce que nous voyons dans la presse écrite ou dans les médias numériques.
Oui, ben là, on rentre vraiment très à fond dans une réalité. Et puis c'est vrai que ces grands formats, ça nous fait peut-être des fois, ça nous fait voir plus les choses. On est vraiment obligé de voir. C'est d'ailleurs un peu le créneau des photographes de presse. C'est des fois nous faire voir ce qu'on n'a pas envie de voir. Mais là, c'est devant nos yeux en grand format. Et vous parler à très juste titre, parce que la photo de l'année gagnante, donc de Mohamed Salem, c'est cette photo qui a été présentée cette année exceptionnellement beaucoup plus en grand, puis qui est quand même très très forte. C'est donc une tante lors d'un bombardement à Gaza, a su que l'immeuble où sa nièce habitait a été bombardée. Elle s'est d'abord rendue, je crois, sur place, mais voilà, elle a été après à la morgue et elle est tombée sur le cadavre de sa nièce de 5 ans. Et le fait qu'elle ait une forme de S, en fait, ça me fait beaucoup penser en histoire de l'art au maniérisme, vous voyez, c'est une forme de S, on disait, et c'est très 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 fort, ça nous saute encore plus aux yeux, et cet enfant qui a que 5 ans paraît énorme, immense, et cette femme qui la serre dans les bras, moi je trouve que c'est une photo vraiment très, voilà, alors elle a gagné le premier prix, c'est à la fois une photo tragique, mais une photo pour nous montrer la guerre autrement, son visage, on n'a pas d'identité, mais on comprend tout avec ça. En cachant, on dit aussi des fois beaucoup. Et puis c'est dramatique parce qu'elle n'avait que 5 ans. Les couleurs sont en plus magnifiques. Puis ce contraste du blanc de la personne qui a disparu avec une personne encore vivante, avec des couleurs. Enfin, c'est un témoignage. C'est un photographe qui lui-même a été, en fait, je pense, alors très choqué de voir ça, cette scène. Et il l'a prise, sa femme venant d'accoucher d'un enfant. Je pense qu'il était d'autant plus, évidemment, réceptif à ces innocentes victimes, puis c'est vrai, des jeunes filles. Et il était là, il a su cadrer sa photo, enfin juste, il faut aussi pas trop perdre ses moyens, je pense, quand on voit une scène comme ça. Cette année, World Press Photo souligne, ils ont raison, que l'année 2023 a été jamais aussi autant meurtrière pour les photojournalistes et les photographes. Il y a eu 78 décès de personnes, et ils soulignent le fait qu'aussi à Gaza, en ce moment, Israël a interdit la couverture du conflit pour les journalistes étrangers. Donc c'est quand même, ils ont fait ce panneau d'atteinte à la liberté de la presse. Et c'est pour ça que là, ils ont fait ce panneau vraiment pour dire, il faut, c'est pas possible, on doit pouvoir couvrir librement les guerres. Et là, ils ont fait cette mention spéciale pour deux photographes photographe, si vous voulez, pour mettre en regard l'attaque des Hamas sur Israël via le festival de musique où se trouvaient ces jeunes, et là il reste que leurs effets personnels, et puis un bombardement à la suite de ça en riposte d'Israël sur la bande de Gaza, et dans un paysage de urbain où il reste plus qu'une silhouette qui erre parmi des décombres. Bah, c'est l'idée de dire oui, on est impartial, enfin on montre les deux faces d'une même guerre. Mais il faut qu'on puisse témoigner, parce que sinon aussi, si on peut pas témoigner des deux côtés, on sera plus équitable. Donc là, il y a vraiment une volonté aussi un peu d'ouvrir les yeux des spectateurs, de nous tous en fait, de se dire quand même qu'ils prennent d'énormes risques, les photographes, les journalistes, pour nous faire voir cette réalité la plus correctement possible. Donc il faut qu'on les soutienne.
Et pour ce World Press Photo, cette année, exceptionnellement, l'exposition court jusqu'au 5 janvier prochain. C'est bien de le préciser, c'est bien de le dire pour permettre aux familles. Il y a des photos qui sont un peu choquantes pour le jeune public. Il faudra tout de même faire attention à cela. En revanche, l'exposition est en place jusqu'au 5 janvier, ce qui est une première.
Tout à fait, je vous remercie beaucoup de le signaler. Puis vous avez raison, pour les familles, nous on met des panneaux, hein, que ça soit bien clair, que les parents sont avertis, qu'il y a des scènes voilà, difficiles à voir. Mais autrement, exactement, l'exposition est visible jusqu'au 5 janvier, c'est une première. Et on espère que les visiteurs, visiteuses viendront nombreux.
Nous n'en doutons pas. En tout cas, merci à vous Marie-Hélène Pellet pour tout le temps consacré pour cette visite. Je dis merci également à toutes et à tous et je souhaite une très belle suite de journée à l'écoute de notre antenne Radio Cité Genève 92.2 FM.
Parfait, merci beaucoup de votre interview et venez nombreux voir ces expositions de presse.